décryptage. Andréane Mélard.
Tenue correcte exigée, ce message placardé dans la cour de leur lycée les a poussés à s'élever contre ce qui pour elles est une entrave à leur liberté. La semaine dernière, d'abord sur TikTok, puis Twitter, puis Instagram, de jeunes françaises s'emportent contre l'interdiction dans leur lycée de porter certaines tenues, jupes, shorts ou t-shirts courts. Et ça, ce n'est que pour les filles et ça peut même aller jusqu'à leur refuser l'entrée dans l'enceinte du lycée. S'ensuit une tornade de réactions sur les réseaux sociaux, même histoire dans un lycée privé des Côtes d'Armor. Puis à Boulogne-sur-Mer, et ici, et là, et encore là, alors que la France est écrasée par la chaleur, les lycéennes crient à l'injustice. Pourquoi ne peuvent-elles pas s'habiller comme elles veulent? A suivi la création d'un mouvement féministe à part entière et la naissance du hashtag lundi 14 septembre, date à laquelle toutes les lycéennes, tous les lycéens sont appelés à faire de cette journée un symbole de liberté. Venez, garçons, filles, en jupe, tout nombril dehors et visage maquillé, en fait, comme vous voulez. Résultat, le mouvement est suivi par des dizaines et des dizaines de lycéens en France. Les photos inondent les réseaux sociaux et des pétitions sont lancées. Depuis, la contestation continue. Dénoncer la discrimination et le sexisme au lycée, s'habiller comme on veut, sans se préoccuper du genre. On va en parler ce soir avec Mathieu Develaminck en studio, à mes côtés. Bonjour.
Bonjour.
Président de l'Union nationale lycéenne et au téléphone avec nous Anne Muxel, sociologue, directrice de recherche au CNRS. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Alors déjà pour commencer, Mathieu Develaminck, j'aimerais savoir comment vous analysez la portée de ce mouvement du lundi 14 septembre. Est-ce que vous le soutenez à l'Union nationale lycéenne et pourquoi cet éclatement maintenant?
Oui. Nous évidemment on soutient le mouvement et je pense que ce mouvement il est assez symptomatique de la question de la place des jeunes dans cette société et au lycée. En fait s'il y a eu ce mouvement là, c'est parce qu'on laisse pas assez de place aux jeunes, de place à la parole des jeunes pour s'exprimer, pour faire entendre leurs envies, leurs désirs. Et ce mouvement là en fait c'est la cristallisation finalement de ce phénomène. On nous permet pas de s'exprimer, même quand on s'exprime en fait finalement on n'est pas écouté. Ça fait 2 ans qu'on se mobilise dans la rue, dans les marches climat, dans les marches antiracistes, dans les marches féministes, dans les mouvements pour une autre éducation. Et on n'est jamais écouté, on n'est jamais entendu. Nos revendications ne sont jamais satisfaites. Et en fait, ce mouvement-là, en fait, c'est encore une fois ça. Tous les ans, on a des problèmes de lycéennes qui se font refuser d'accès à leur lycée, qui se prennent des conseils de discipline à cause de leur tenue qui serait jugée indécente. Et en fait, bah là, concrètement, aujourd'hui encore, on retrouve cette marque de ces adultes, de cette éducation nationale qui refuse d'écouter les jeunes.
Alors vous êtes un garçon. Comment est-ce que vous voyez ce mouvement qui est parti des jeunes femmes?
Est-ce que vous pouvez reformuler la question?
Vous êtes un garçon, oui. Ce mouvement il est parti des lycéennes, donc il a été ouvert à tout le monde, bien sûr.
Sur la question des lycéennes, déjà, je pense que, évidemment, c'est un mouvement qui soulève la question des discriminations sexistes. En fait, en ce moment, au sein de l'éducation nationale, on manque cruellement de moyens pour avoir des heures de prévention contre le sexisme. Et ça, c'est pas anodin, parce que forcément, en fait, quand on rogne sur les dotations horaires globales des lycées, c'est-à-dire sur les heures qui sont allouées dans chaque lycée, bah forcément, on a des classes qui sont de plus en plus surchargées. Et en fait, bah, si on n'a même pas assez d'heures de cours pour mettre en place les cours prévus normalement, on risque pas d'avoir assez d'heures pour mettre en place des cours en plus sur les questions des discriminations et notamment du sexisme. Après, je pense que ce mouvement, il touche pas seulement, enfin, c'est des filles qui se sont majoritairement mobilisées, mais en fait, il touche aussi les garçons. On a eu dans un lycée à Dax des affiches qui dénonçaient justement les tenues correctes exigées. La moitié, en fait, c'était aussi des tenues pour les garçons qui leur disaient de pas venir en survêtement, de pas venir avec des jeans troués, de pas venir en short. En fait, nous, les garçons, on est aussi touchés. C'est pour ça que plus qu'un mouvement féministe, c'est aussi un mouvement de la jeunesse.
Merci à Mathieu Develaminck. Alors la dénonciation du sexisme dans les lycées, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. On pense à la journée de la jupe notamment. Est-ce que là, avec ce mouvement, Anne Muxel, on atteint un tournant d'après vous?
Ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est la conjonction d'une revendication de liberté, qui est une valeur aujourd'hui à laquelle, évidemment, les jeunes, mais cela fait longtemps du reste, hein, mais sont particulièrement attachés, la liberté, et la liberté qui suppose aussi le respect des différences, le respect de chacun dans ses choix personnels. Et puis, donc, la conjonction avec un mouvement de revendication, de refus du sexisme et des discriminations, effectivement, selon le genre, assignant à chaque genre une façon de s'habiller. Donc, on voit bien que là, cette conjonction de ces deux éléments fait la singularité de ce mouvement du 14 septembre.
Alors, Mathieu Develaminck parlait du lycée de Dax il y a quelques instants. Justement, j'aimerais qu'on écoute ce témoignage recueilli par nos confrères de France 3 Aquitaine. C'est une lycéenne de Dax dans le sud de la France.
Un lycée, c'est un endroit où on devrait se sentir bien, on devrait se sentir en sécurité. Quand on est dans la rue, on a toujours peur de se faire juger, de se faire agresser pour une femme ou même pour un homme, de se faire insulter. Et le lycée, c'est là où il y a des personnes qui nous gèrent, des personnes qui puissent nous écouter et nous aider. Et or, là, c'est l'administration, les adultes qui nous font des remarques qui sont parfois très déplacées. Donc, on ne se sent pas en sécurité, on a honte de comment on s'habille et de comment on est. Et je trouve pas ça normal qu'on soit un homme ou une femme.
Anne Muxel, pardon, comment est-ce que vous réagissez à ce qui vient d'être dit ?
Ce que l'on entend, et c'est aussi ce qui a été dit au tout début de l'émission, c'est-à-dire c'est cette demande de reconnaissance qu'exprime la jeunesse, une demande de reconnaissance quant à son existence, quant à ses goûts, quant à sa façon de se positionner, quant à effectivement cette revendication de l'apparence. C'est très important, l'image, l'apparence dans le temps de la jeunesse. Et c'est vrai que les vêtements, par exemple, la façon dont on veut s'habiller, dont on veut se présenter, c'est dans la construction de l'image de soi, dans le temps de la jeunesse, c'est quelque chose aussi de très important. Donc moi, j'entends dans les propos de cette lycéenne vraiment le rappel de cette demande de reconnaissance de la jeunesse dans la société française, être entendue, être vue aussi, et acceptée au travers de ces modes, de ces façons de s'habiller, de se présenter.
Alors, il y a cette demande de reconnaissance, il y a aussi cette indignation, cette incompréhension, le fait que ces lycéens se voient interdire, et ça va même jusqu'à la punition, certaines tenues au motif qu'elles ne sont pas correctes. Pourquoi ce flou, Mathieu Develaminck, autour de la tenue correcte exigée? C'est ce qu'on peut lire dans les règlements intérieurs des établissements. C'est quoi une tenue correcte?
Justement, moi je vous le demande, j'aimerais bien savoir. Et je pense que concrètement, cette mention dans le règlement intérieur, elle laisse la place à l'arbitraire, elle laisse la place au subjectif. Et c'est pour ça en fait qu'on demande qu'elle soit retirée des règlements intérieurs. Nous, on pense que cette mention, elle figure dans les règlements intérieurs, c'est parce que les lycéens et les lycéennes ne sont jamais consultés sur ce qui est dans ces règlements intérieurs. On pense, nous, à l'UNL, que si on demandait aux jeunes, en fait, qu'est-ce que vous voulez voir apparaître dans les règlements intérieurs, s'ils étaient co-construits avec les administrations, avec nos profs, avec les parents, mais en fait, on aurait des règlements intérieurs qui serait beaucoup plus cohérent et qui ne laisserait pas place à ce genre de mention incompréhensible finalement.
Alors le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a donné son avis sur ce mouvement du lundi 14 septembre. Il a un peu exprimé un avis aussi sur ce qu'on vient de se dire. C'était mardi au micro de nos confrères de BFM TV.
Il serait temps qu'on ait dans notre pays, sur ce genre de sujet, des positions équilibrées. Entre ceux qui veulent qu'on voit pas leur visage et ceux qui veulent avoir des tenues de tous ordres, je pense qu'il y a tout simplement une sorte de grand bon sens qu'on doit avoir, qui est d'ailleurs un grand bon sens qu'on voit dans les règlements intérieurs des établissements. Et donc les chefs d'établissement sont évidemment dans leur rôle à faire respecter des tenues normales, tout simplement.
C'était donc Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, le ministre qui parle donc de tenue normale, de bon sens. Est-ce qu'il est possible ce bon sens, Mathieu Develaminck?
Ah, mais la réaction du ministre Blanquer, elle est totalement à côté de la plaque en fait. Il y a un problème qui se pose, c'est que les lycéens et les lycéennes veulent affirmer qu'on a changé de société et que dans cette société, on doit pouvoir se vêtir comme on veut. Concrètement, la réponse du bon sens et la réponse de on doit s'habiller normalement, en fait, nous encore, on cherche à questionner cette norme. C'est quoi la normalité? En fait, la normalité d'il y a 40 ans, c'est pas la normalité actuelle. En fait, nous, on voudrait justement que en fait, l'évolution de l'éducation nationale, elles suivent l'évolution des mœurs et des façons de penser des lycéens et des lycéennes.
Anne Muxel, dans les critiques qui sont émises sur ce mouvement, on reproche aux jeunes femmes leur incompréhension totale des rapports humains, ce qui régit la vie en société, c'est-à-dire s'habiller en fonction des circonstances, s'adapter. Qu'est-ce que vous pensez de ça ?
Mais je pense que cette question de la normalité est évidemment intéressante à soulever. Quelle est la normalité? Quelles sont les lignes, les seuils qui vont définir une tenue normale ou une tenue anormale? Surtout dans une époque marqué par une profonde individualisation des pratiques, des goûts, mais aussi des normes. Donc en fait, c'est ce vivre ensemble qu'il faut essayer de faire exister, et peut-être donc en appeler à ce bon sens, bien sûr, mais en même temps avec l'acceptation de cette individualisation qui conduit ces jeunes à revendiquer de s'habiller comme ils le veulent, comme ils l'entendent. Donc il y a une équation là qui suppose effectivement des tensions, sûrement, entre les jeunes et la société adulte, entre guillemets, mais qui, sans doute, au travers de dialogues, au travers d'échanges, au travers de prise en compte et d'écoute de ce que les jeunes entendent faire valoir, eh bien, pourraient sans doute trouver à s'améliorer.
Alors, on parlait de bon sens, et en même temps, il y a aussi cette fracture qu'on peut voir au sein même du gouvernement, puisqu'on a donc la réaction de Jean-Michel Blanquer, on a de l'autre côté celle de Marlène Schiappa, l'actuelle ministre déléguée à la citoyenneté, ancienne secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes. Marlène Schiappa, elle a écrit sur Twitter, je la cite, « En tant que mère, je les soutiens avec sororité et admiration ». Qu'est-ce que vous pensez de cette différence de traitement, Anne Muxel?
Bien, je pense qu'effectivement, Marlène Schiappa, qui est très soucieuse de l'égalité des droits et de la reconnaissance de cette égalité entre les femmes et les hommes, considère que, au travers de cette revendication de ces jeunes filles, eh bien, c'est aussi une façon de combattre le sexisme qui suppose qu'il y a un regard différencié et potentiellement pouvant supposer des violences, voire un danger, voire un risque pour les jeunes femmes, entre les hommes et les femmes. Donc il y a cette idée, au travers de cette revendication, je m'habille et je montre mon corps tel que je le veux et je me présente comme je veux me présenter dans l'espace public, sans pour autant que cela suppose des regards différents, voire des risques différents, pour moi-même et pour mon corps, de la part des hommes. Donc il y a là, effectivement, quelque chose qui participe d'un combat contre le sexisme.
Mathieu Devlamin, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce problème de sexisme dans les établissements? Comment est-ce qu'on pourrait essayer de régler ça?
Oui, nous, on voit deux choses. Déjà, il y a la question des moyens. Concrètement, actuellement, on n'a pas assez de moyens financiers et dans des classes, on est 37. Comment on peut faire de la prévention? Comment on peut détecter les cas de harcèlement, les cas de discrimination si les professeurs ils gèrent des classes de 37, voire 40 parfois? Enfin, concrètement, là, il y a un manque cruel de moyens et aussi il y a un manque de moyens pour mettre en place des ateliers de prévention, des temps spécifiques de prévention, notamment sur la question des discriminations. Et en plus, ça, on sait que ça fonctionne parce que quand on met en place dans les collèges, notamment, ces temps de prévention contre la drogue, bah, par exemple, en fait, on voit que ça marche, que la consommation de drogue baisse. Et en fait, là, c'est la même chose sur l'action des discriminations. Si on avait de réels moyens pour faire de la prévention contre les discriminations au lycée, on aurait moyen de les réduire.
Mais vous pensez que là, c'est possible que ça change rapidement, puisqu'il y a quand même encore d'autres hashtags qui ont été créés. Il y a balance ton prof, balance ton bahut. Est-ce que ça va plus loin, cette revendication du 14 septembre? Jusqu'où ça peut aller?
Bah, clairement, nous, on espère que ça ira plus loin et on espère que la communauté éducative saura s'unir pour demander plus de moyens pour qu'on puisse mettre en place les conditions nécessaires pour réduire les discriminations au lycée et tendre à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Nous, on veut que ce mouvement-là, en fait, il aille plus loin et que pas seulement que ce soit les lycéennes, mais aussi que ce soit nos parents, nos profs qui, en fait, soient là en soutien parce que cette cause qu'on défend, en fait, c'est une cause commune.
Et est-ce que vous pensez que les parents ont aussi un rôle à jouer dans tout ça?
Oui, je pense que les parents ont un rôle à jouer de soutien. On a des jeunes qui se mobilisent pour leurs droits et en fait, on veut que nos parents, en tant qu'adultes, puissent nous écouter et puissent comprendre qu'on a des revendications à faire valoir, qu'on réfléchit sur la société et qu'on veut changer les choses. En fait, on aimerait que nos parents accompagnent ce changement social-là au lieu de faire comme Jean-Michel Blanquer, de dire qu'il faut appeler au bon sens et qu'il faut simplement tout stopper et qu'il ne faut pas nous écouter.
Et Anne Muxel, j'aimerais aborder aussi une autre notion encore dans cette affaire, c'est le fait que tout est né sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça implique, cette chose-là, Anne Muxel?
Les réseaux sociaux, les outils numériques aujourd'hui sont un support de mobilisation et de communication très important, dont les jeunes générations qui sont nées complètement avec le numérique, qui ont une grande habitude, un grand usage de tout cela, usent dès l'instant où ils ont aussi à porter des mobilisations, à inscrire des préoccupations et à créer des mouvements de rassemblement. Donc, pour attirer l'attention de l'opinion publique, mais aussi des pouvoirs publics, c'est vrai que les jeunes générations ont aujourd'hui à leur disposition des moyens importants. Et ils savent les utiliser. La création de ce hashtag 14 septembre, qui est devenu viral, est bien la preuve que tout d'un coup, à partir d'un mouvement porté peut-être par quelques individus, quelques jeunes, tout à coup, il y a la possibilité de démultiplier de façon considérable cette mobilisation et cette prise de conscience.
Et Mathieu Develaminck, pour vous, cette importance et ce recours aux réseaux sociaux, qu'est-ce que ça veut dire de votre génération ?
Je pense que ça veut dire que les modes de mobilisation sont différents et que, en fait, par les réseaux sociaux, on peut créer des mouvements massifs. Mais nous, on pense que ça doit aussi se transcrire dans les lycées et on espère que dans les jours à venir, ça se transcrira par des mobilisations sous une forme ou une autre dans les lycées, parce qu'en fait, on peut mettre un rapport de force avec le gouvernement pour essayer de faire entendre nos revendications sur les réseaux sociaux. Mais en fait, faut aussi le mettre dans les lycées, en fait, que ce soit avec des pancartes, avec des revendications, avec aussi des réunions. En fait, où on puisse parler de ça concrètement, et nous on appelle les lycéens concrètement à s'organiser, à continuer de parler de ça pour que ce débat il puisse avoir lieu de manière la plus large possible avec tous les lycéens et toutes les lycéennes pour concrètement qu'on se mette en accord sur des revendications communes et sur des modes d'action communs.
Anne Muxel, pour terminer, j'aimerais savoir, alors la sexualisation du corps des femmes, on en parle beaucoup, surtout ces dernières années. Qu'est-ce que ça fait que là, que ça touche une partie de la population qui soit particulièrement jeune ? Est-ce que ça veut dire quelque chose et est-ce que du coup, ça peut emmener ce mouvement encore plus loin, d'après vous ?
Mais ça veut dire que les jeunes sont tout à fait conscients d'un certain nombre de problématiques de la société, d'enjeux sociétaux qui font débat dans la société. Donc ces jeunes sont évidemment réceptifs à tous les débats auxquels on assiste maintenant depuis quelques années, qui ont pris particulièrement de l'importance au travers du mouvement MeToo. Donc les jeunes sont porteurs aussi de ces nouvelles revendications, préoccupations. Et ce que je peux dire en tant que sociologue, j'ai beaucoup travaillé dans les lycées en y menant des enquêtes, c'est que à chaque fois j'étais frappée par la nécessité et le grand désir pour les jeunes de débattre au sein des lycées, que des sujets de société soient abordés à l'intérieur du cadre du lycée. Alors c'est vrai que beaucoup d'enseignants le font, mais pas tous. Mais il y a vraiment un besoin de parole, de débat et de prise en compte, surtout par les adultes, des préoccupations et des façons de voir qui sont portées par les jeunes sur ces enjeux de société.
Vous êtes d'accord, Mathieu Develaminck, que je vous vois hocher la tête?
Oui, non, moi je rejoins totalement ce que dit Anne Muxel. Nous, on pense que pour changer la société, il faut aussi changer le lycée. Et si on veut mettre fin aux discriminations sexistes, en fait, la racine du problème, c'est l'éducation, c'est à l'école que ça se passe. Et oui, nous, on appelle en fait les lycéens à traiter de ce sujet-là avec leurs professeurs ou juste entre pairs. Mais en fait, c'est en changeant la société qu'on changera le lycée. C'est concrètement, oui, il faut changer tout à la racine dans le lycée.
Eh bien, merci beaucoup. Il faut continuer donc de débattre, de parler de cette question. On va continuer aussi d'en débattre sur RFI, mais pas aujourd'hui. Tout de suite, c'est le débat avec Guillaume Nodin. On va parler des tensions en Méditerranée. Merci à nos invités du jour, Anne Muxel, Mathieu Develaminck, d'avoir été avec nous.
RFI, tout
Toute l'actualité à retrouver sur rfi.fr ou si votre connexion est lente sur m.rfi.fr.